Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, le pétrole est-il une malédiction pour les pays exportateurs ? Jamais les prix du pétrole n'avaient été aussi bas depuis 2009. Le cours de référence était à nouveau en baisse tout à l'heure à New York, à moins de 37$ le baril. Sur le marché européen, c'est un peu plus haut, autour de 40$, bien loin des sommets atteints quelques années plus tôt lorsque le même baril se négocie à plus de 100$ et que bon nombre d'experts annonçaient une inflation galopante du fait de l'épuisement de cette ressource. Si épuisement il y a, il n'est pas encore en vue. La production est abondante et la décision vendredi dernier de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, de ne pas toucher à ses quotas, a contribué à faire flancher un marché qui n'était déjà pas bien portant. Un pétrole bon marché, c'est évidemment une mauvaise nouvelle du point de vue de la protection de l'environnement. Pouvoir rouler à bas prix, par exemple, n'incite pas à laisser sa voiture au garage au profit des transports en commun. Mais c'est aussi un drame pour les populations qui vivent dans des pays où le pétrole est la principale richesse, parfois même la seule. Quand le principal pilier d'une économie vacille, c'est tout l'équilibre social qui est menacé. Alors le pétrole est-il une malédiction pour les pays exportateurs ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Philippe Chalmin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes le président de Cyclope, Institut de recherche sur les marchés des matières premières, qui publie chaque année son rapport annuel, puisque c'est chaque année. Pour discuter avec vous ce soir, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste du Nigeria, et vous avez contribué au dernier numéro de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, consacrée justement à la géopolitique du Nigeria. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Nantes. Il s'agit de Luis Martinez, bonsoir. Luis Martinez. Alors j'entends du bruit, mais je n'entends pas Luis Martinez. On va essayer de vous retrouver. Est-ce qu'il est là ?
Oui, je suis là.
Ah bah
bonsoir.
Voilà, on avait, je pense, branché le mauvais bouton. Bonsoir Luis Martinez, vous êtes politiste, directeur de recherche au CERI, qui dépend de Sciences Po, le Centre d'études des relations internationales, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous avez publié aux presses de Sciences Po « Violence de la rente pétrolière », c'était en 2010. Alors je voudrais qu'on commence peut-être par une approche un petit peu globale des conséquences que peuvent avoir ces bas prix du pétrole. Ça continue de baisser, mais ça fait déjà un petit moment que la tendance est à la baisse. Est-ce qu'on peut dire que c'est une catastrophe économique pour, si ce n'est tous les pays exportateurs de pétrole, Philippe Chalmin, en tout cas pour la plupart ?
Oui, pour la plupart, dans la mesure où ils avaient pris de très mauvaises habitudes et que ils avaient un niveau de vie largement supérieur à ce qu'aujourd'hui ils peuvent se payer. Ce qu'on appelle le fiscal break-even, c'est-à-dire le point d'équilibre budgétaire leur permettant d'équilibrer leur budget, est en moyenne pour les pays de l'OPEP aux alentours de $100 le baril. Et nous devrions avoir cette année un déficit budgétaire moyen des pays de l'OPEP qui va être de l'ordre de 12,5%. Pour vous donner un ordre de grandeur, alors le pire, c'est le Venezuela qui équilibre à $160 le baril. La Russie doit être à 110. L'Algérie entre 110 et 130 suivant les sources. Il n'y a guère que les Émirats Arabes Unis et le Koweït qui sont aux alentours de 50.
Ça veut dire que ce sont des pays qui ont bâti des budgets sur ce niveau-là et qui du coup se retrouvent à devoir réduire leurs dépenses publiques.
Alors, soit réduire leurs dépenses publiques, soit, pour la plupart, et notamment l'Arabie Saoudite qui équilibre aux alentours de 90, plonger dans leur poche. Alors, il y a quelques fourmis quand même qui ont fait des réserves, et l'Arabie Saoudite a des poches très très profondes. Il y en a d'autres qui n'ont plus du tout de poche, et c'est notamment le cas du Venezuela. Et entre les deux, vous avez à peu près tous les cas de figure. En tout cas, tous souffrent, et le retour sur terre, et avoir pendant ce qui est probable pendant plusieurs années, du pétrole se baladant grand maximum entre 40 et $60, ça va être dur, et c'est un atterrissage en douleur et qui tient parfois même du crash économique.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, est-ce que le Nigeria, qui fait partie de cette organisation qui est l'OPEP, si je ne m'abuse, est-ce que le Nigeria fait partie des pays fourmis, comme le disait à l'instant Philippe Chalmin ?
Non, malheureusement, et le Nigeria n'a pas réussi, disons, à réinvestir la rente pétrolière dans une base industrielle très conséquente. Ce qui est intéressant de noter, mais c'est une remarque qu'on peut faire aussi pour le Mexique ou le Venezuela, ou même l'Iran du fait des sanctions économiques, hein, c'est que de toute façon, beaucoup de pays producteurs et exportateurs étaient de toute façon très handicapés dans le développement de leur production. C'est ça qui est aussi étonnant. Alors quand vous prenez par exemple le cas du Nigeria, de toute façon, l'économie politique du pays était telle que de toutes les manières, ils n'arrivaient même pas déjà à remplir leur quota de l'OPEP.
C'est-à-dire qu'ils sont handicapés dans leur production pétrolière, vous voulez dire ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes structurels qui tiennent alors au Nigérien à la fois au vol de pétrole brut, ce qu'on appelle le bunkering, qui part après au marché noir, hein, et qui là n'est même pas vendu à $30, c'est clair, le baril. Et d'autre part, à l'environnement juridique incertain qui fait qu'il n'y a plus d'investissement. Il y a même un désinvestissement de Shell parce qu'il y a une loi qui est dans le pipeline qui s'appelle la Petroleum Industry Bill depuis 2007, qui n'est toujours pas votée. Donc les investisseurs ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés sur le plan fiscal. Donc de toute façon, la production diminuait.
Donc c'est une forme de double catastrophe, de double problème, c'est-à-dire à la fois...
Quoi qu'il en soit des prix du baril, si vous voulez, le prix du baril fort avait permis de compenser le fait que le Nigéria produisait tendanciellement de moins en moins, et qu'en plus de ça, les investissements, avant que la production augmente, ça va prendre des années. Donc de toute façon, là, on sait que le gouvernement va gérer 5 années très dures de diminution de son budget.
Luis Martinez, la description que vient de faire Marc-Antoine Pérez de Monclos à propos du Nigeria, est-ce qu'on la retrouve dans un certain nombre de pays du Maghreb et du Moyen-Orient que vous étudiez en particulier ?
Oui, je pense que si on prend l'Algérie, on peut considérer que un des facteurs explicatifs du succès de la stabilité de l'Algérie sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika tient essentiellement à la redistribution notamment de la rente pétrolière. Dans une période où le pétrole se vendait à peu près à $100, il est clair que l'effondrement du prix suscite énormément d'inquiétude, car une grande partie finalement de la paix sociale est négociée autour vraiment d'un certain nombre de prix subventionnés, de produits subventionnés, de redistribution de biens sociaux, etc. Donc il sera extrêmement difficile de tenir ce type, disons, d'équilibre politique autour d'un régime qui, disons, tant bien que mal, s'est efforcé non pas d'investir dans, disons, une industrie ou de rediversifier son économie, mais davantage d'accentuer la dépendance aux hydrocarbures.
L'Algérie subventionne un certain nombre de produits de consommation courante. Est-ce que ça veut dire que quand le pays a moins de ressources pétrolières du fait de la baisse des prix du pétrole, il y a moins de subventions et donc il y a par conséquent une forte inflation sur ces produits-là et ça crée déjà des problèmes sociaux, voire de l'instabilité sociale, Luis Martinez ?
Oui, tout à fait. Et l'Algérie, malheureusement, a déjà vécu cette période-là. Il y a 20 ans, on l'oublie un petit peu, disons, mais il y a 20 ans, l'Algérie était sous un plan d'ajustement structurel parce que en 1994, elle était tout simplement en faillite financière. L'effondrement à la fois du prix du baril et en même temps, disons, d'un contexte national avait produit, disons, une situation catastrophique sur le plan économique et financier. Et il a fallu attendre un certain nombre d'années pour arriver en Algérie à ressortir de cette situation. Une des grandes inquiétudes des autorités aujourd'hui est bien évidemment de retrouver ce contexte-là, à la fois de crise politique interne et en même temps de crise financière majeure. Alors il y a un petit filet, disons, l'Algérie ne fait pas partie des fourmis, mais quand même elle a essayé pendant un certain nombre d'années de mettre de côté une partie de ses avoirs, disons. Donc il y a encore peut-être pour au moins 2 ans disons une possibilité d'assurer des importations, même si on constate une réduction de celles-ci, permettant de continuer à alimenter, disons pendant 2 ans, une population qui est extrêmement dépendante tout simplement de ses revenus issus de la vente des hydrocarbures.
Alors j'ai vu en préparant l'émission qu'il y avait certains pays qui étaient même conduits à produire à perte. Ça a été annoncé cet été par l'Équateur au mois d'août, qui révélait donc qu'il était en train de pomper à perdre. Autrement dit, le prix de vente qui ne couvrait pas les coûts de production. Est-ce que vous avez entendu parler de ce cas ? Ça a l'air de vous étonner, Philippe Chalmant.
Oui, alors je ne suis pas un spécialiste de l'Équateur, mais la notion de prix de revient du pétrole, ça va de quelques dollars le baril pour la production sur Terre en Irak ou en Arabie Saoudite, allez, 5-10 dollars grand maximum, et les forages très profonds, par exemple les fromages, les forages au large du Brésil, 3000 mètres d'eau, 3000 mètres de sel en dessous, c'est du pétrole qui sortira aux alentours de $60. Une des grandes questions qu'on a aujourd'hui, par exemple sur le marché, c'est de savoir jusqu'à quel niveau est-ce que le prix du pétrole doit tomber pour limiter la production de pétrole de schiste dans le nord des États-Unis, dans le Dakota ou ailleurs, et on est dans la zone des $30-$40. Alors j'avoue que je n'ai pas en mémoire quelle est la structure de production en Équateur, mais ça m'étonnerait, en termes de coût de production réel, je serais un peu étonné. Par contre, s'il rajoute à ce coût de production les taxes que l'État était habitué à prélever, bah, c'est évident. Et à ce moment-là, c'est toute cette question de fiscal break-even dont je vous parlais.
En tout cas, ça peut amener un certain nombre de pays à reconsidérer leur production pétrolière en essayant de, en se disant, bah, ça nous coûte peut-être davantage que ça nous rapporte.
Non, ils n'en sont pas là. Et de toute manière, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous parlons aujourd'hui de la malédiction du pétrole parce que le pétrole est à $40. C'est évident. Mais la malédiction du pétrole, elle est tout aussi grande pour les pays, pour les économies et pour les sociétés productrices lorsque on était à $100 ou $150. La malédiction du pétrole, elle est la cause même du sous-développement de l'Algérie, par exemple, et de son sous-développement à la fois économique et surtout politique. Le drame du pétrole, c'est que il a créé des monocultures économiques, il a créé la dépendance au fond, le pétrole pour les économies et même pour les sociétés des pays producteurs, ça ressemblerait un peu au produit dopant que prend un cycliste. Au départ, il se dit, je vais juste me doper un peu pour passer le col. Et puis après, ça ira mieux. Et puis il s'habitue. Il a toujours besoin de toujours plus de dope. Et aujourd'hui, où il peut plus s'acheter sa dope parce que le prix du pétrole s'effondre, alors là, il peut plus pédaler.
Marc-Antoine Pérez de Monclos, oui. Qu'il soit bas ou qu'il soit haut, le pétrole est une malédiction pour ceux qui en ont.
Dans des économies monodépendantes, oui, c'est une vulnérabilité très forte. Maintenant, ça dépend parce que toutes les économies exportatrices de pétrole ne sont pas toutes complètement monocentrées. En revanche, il y a un point qui vient d'être évoqué qui me paraît extrêmement important, c'est effectivement la révolution des huiles de schiste qui a évidemment contribué aussi à une abondance de l'offre qui contribue à la baisse des prix du baril et qui rebat complètement les cartes géopolitiques des pays en développement qui exportent du pétrole. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis n'importent plus de pétrole du Nigeria. On a longtemps suspecté les États-Unis de vouloir mettre la main sur le Nigérien et même d'y envoyer des troupes parce qu'ils en importaient du pétrole et qu'ils voulaient justement, couper leurs relations très étroites avec les pays producteurs du Moyen-Orient. Et maintenant, on suspecte même les États-Unis de vouloir se désintéresser aussi du Moyen-Orient parce qu'ils ont moins besoin de ce pétrole. Donc il y a des effets géopolitiques qui, à mon avis, vont au-delà, simplement, et c'est le message que je veux faire passer, de l'évolution des cours du baril. L'évolution des cours du baril, elle joue dans des économies très dépendantes de cette manne, qui d'ailleurs va généralement de pair aussi avec la production de gaz, hein, très souvent, parce qu'on l'oublie un peu, mais c'est oil and gas. Mais au-delà de ça, au-delà de l'évolution des cours du baril, il y a vraiment aussi d'autres effets très importants qui réorganisent la façon dont les États se développent ou non dans des pays qui dépendent beaucoup de leur exportation d'hydrocarbures. Et ça, c'est assez étonnant. Alors on prête justement dans cette théorie de la malédiction du pétrole, ce qu'on appelle l'oil curse, hein, c'est très à la mode chez les anglo-saxons, la malédiction du pétrole.
Hein, à l'oil curse, pardon.
Et le fait que la production et surtout l'exportation de pétrole aboutirait forcément à des régimes autoritaires, de la corruption, etc. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas être trop déterministe. On a vu des cas où finalement des pays se démocratisaient tout en se mettant à produire, à exporter. Je pense, au Brésil, quelquefois aussi à l'Équateur. Le Venezuela, c'était un peu l'inverse. Hein. Il revenait à un régime autoritaire avec Chavez au moment où sa production diminuait. Donc les courbes ne se suivent pas toujours. Mais indéniablement, le fait d'avoir des économies politique qui repose sur l'exportation de pétrole modifie la structure de l'État. Ça, c'est absolument indéniable.
Luis Martinez, est-ce qu'il y a un lien pour vous entre dépendance au pétrole et nature du régime politique ? Et quel est, vous, votre point de vue sur cette notion de malédiction du pétrole ?
Disons, sur les pays que j'ai étudiés, si je prends l'Algérie, la Libye ou l'Irak, je dirais clairement non, en fait. Ce qui est en jeu, c'est pas tant la production de pétrole, mais je dirais les institutions politiques qui existent ou qui préexistent à l'exploitation du pétrole. En fait, produire du pétrole n'est pas un problème en soi. S'enrichir grâce au pétrole n'est pas un problème en soi. Tout dépend des institutions politiques qui sont à même, en quelque sorte, d'exercer un contrôle sur cette production, sa répartition, sa redistribution. Lorsqu'on constate la malédiction du pétrole, c'est souvent dans le cadre de pays pays où, disons, la nature des régimes est souvent autoritaire et la production de pétrole, parfois, disons, lorsque les nationalisations ont eu lieu, arrive après. Et en effet, à ce moment-là, les régimes en place se retrouvent, je dirais, littéralement dopés à des ressources qu'ils n'ont, pour beaucoup d'entre eux, faiblement participé à l'investissement et au développement. On voit bien que la production de pétrole a pu commencer dans les années 20, 30, 40, mais en fait, ces pays vont vraiment en avoir, disons, un accès direct à partir des années 70.
Alors, du coup, est-ce qu'à l'inverse, du coup, quand le pétrole baisse énormément, comme c'est le cas, ça fragilise ces régimes ?
Oui, tout à fait, parce que c'est un petit peu ces régimes, enfin au moins pour celui qui est encore en place, l'Algérie, l'Irak et la Libye, c'est plus compliqué, mais pour des pays comme l'Algérie, il est évident que la nature autoritaire de ces régimes, telle qu'elle a été élaborée par des partis politiques avec des idéologies extrêmement antidémocratiques et autoritaires, eh bien, était fondée sur un pacte social et politique qui visait finalement à redistribuer une partie de cette rente, en contrepartie de quoi, eh bien, la population, les citoyens étaient d'une certaine manière amenés à très peu revendiquer pour des droits politiques. Donc tant que les revenus sont là et permettent un accès à la santé, à l'éducation, à des logements subventionnés, à des produits subventionnés, tant que ça marche à ce niveau-là, on voit une certaine stabilité. Dès l'instant où ça ne fonctionne plus parce qu'il y a des événements, soit de type des engagements militaires pour l'Irak en envahissant, en attaquant l'Iran puis le Koweït, soit pour l'Algérie avec une guerre civile, soit pour la Libye avec, disons, des problèmes internes puis externes, il est évident que ça ne fonctionne plus. Donc ce qui est en jeu pour ces pays, c'est vraiment la capacité à maintenir un flot susceptible de redistribuer. Sans quoi, ils ont deux alternatives. La première, c'est l'endettement. Et on a vu qu'au cours des années 90, des pays comme l'Algérie étaient surendettés par rapport à leurs revenus, à tel point qu'ils soient arrivés en faillite financière en 1994, ou réduire la redistribution, réduire, disons, les dépenses. Or là, bien évidemment, ça signifierait rediscuter du pacte social et politique, et jusqu'à présent, on a rarement vu cela dans la région.
Philippe Chalmin.
Oui, je ne suis pas totalement d'accord sur cette analyse, parce que je parle d'ailleurs... Il n'y a pas que le pétrole, il faut parler de la malédiction des matières premières au sens large. Et celle-ci, elle a deux dimensions. Elle a d'abord une dimension économique. Et sur le plan économique, ça a d'ailleurs été étudié par des économistes néerlandais dans les années 60. Lorsque les Pays-Bas ont commencé à exploiter le gaz naturel de Groningue, eh bien ça a mis l'économie néerlandaise en récession, parce que ça a provoqué un choc inflationniste, parce que ça a provoqué une augmentation des importations et donc une réduction de la compétitivité de la production nationale, etc., etc. Et ce mécanisme qu'on appelle le mal néerlandais, il est assez bien connu, donc y compris pour des économies développées. Le drame est que il faut tenir compte aussi de la dimension politique et sociale, et que l'argent, la manne tombant du ciel que représente la rente des matières premières, eh bien, elle a un puissant pouvoir corrosif sur les systèmes politiques, même les plus vertueux. Alors qu'il s'agisse de dictatures, de monarchies, etc., malheureusement, le résultat est un peu le même. Et on peut remonter très loin dans l'histoire. Faut-il rappeler que l'Espagne du grand siècle, et qui pour l'Espagne est le 16e siècle, ne cesse de s'appauvrir au fur et à mesure de l'arrivée des flottes de l'argent et de l'or du Nouveau Monde, et que Philippe II va être obligé de mettre l'État en faillite. Nous sommes au 16e siècle, on ne parle pas à l'époque de démocratie. Et quand vous dites que le pétrole n'a pas aggravé la chose, le pétrole était, et c'est quand même lui qui a permis le maintien du FLN au pouvoir en Algérie, c'est lui qui transforme ceux qui étaient finalement des officiers au départ bien intentionnés, modèle Kadhafi ou Saddam Hussein, en tyrans, dont finalement, qui perdent la tête au fur et à mesure des vapeurs du pétrole. Malheureusement, je vois très très peu d'exceptions. On peut toujours citer la Norvège, bien entendu, mais en dehors de ce cas un tout petit peu exceptionnel, je n'ai aucun exemple d'un pays qui réussit à bien gérer la rente des matières premières au sens le plus large, et du pétrole en particulier, parce que c'est dans le pétrole que la différence entre le coût de production et le coût de marché est la plus importante, donc que la part de l'État la part du prélèvement peut être la plus grande, et qu'à ce moment-là, on a une destruction, une déstructuration des économies des pays producteurs.
Marc-Antoine Perros de Monclos.
Si vous élargissez le débat aux matières premières, que dites-vous du charbon dans la France du 19e siècle ou la Grande-Bretagne? Il y a tout plein de théories qui existent pour justement dire que ces industries extractives étaient très employeuses de main-d'œuvre, c'est là que sont nés les syndicats et après les mouvements associatifs, mutualistes, etc. Et qu'au contraire, ça a été plutôt porteur d'un mouvement de démocratisation. Où est-ce que vous mettez ça par rapport
Alors, sur le charbon, je serais assez d'accord avec vous, dans la mesure où il s'agissait de la base d'une économie industrielle, à la différence de l'or et de l'argent, et la comparaison de l'or et de l'argent pour l'Espagne, ça ressemble un peu à la manne qui tombe du ciel pour Charles Quint ou Philippe II, de la même manière que le pétrole est tombé du ciel, toute comparaison d'ailleurs mise à part, pour Saddam Hussein ou Kadhafi. C'est vrai que le charbon joue un rôle, et à la limite le minerai de fer aussi, joue un rôle fondamental dans l'industrialisation qui va être celle des grands bassins industriels de l'Europe au XIXe siècle.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Alors on a fait un détour par le charbon, mais on revient au pétrole. Le pétrole est-il une malédiction pour les pays exportateurs? Question posée ce soir à Philippe Chalmin, Marc-Antoine Perros de Monclos et Luis Martinez. Je voudrais qu'on évoque peut-être le rôle qui semble être un rôle un petit peu ambigu, encore que l'est-il vraiment, de l'Arabie Saoudite, qui est une des grandes puissances pétrolières au monde. Luis Martinez, un des principaux pays exportateurs de pétrole, qui, on va dire, si ce n'est décide de la politique qui est menée par l'OPEP, mais enfin en tout cas qui a un poids très important au sein de cette organisation, et qui a fait le choix de ne pas réduire la production pour faire remonter les prix. Est-ce que les Saoudiens ne se tirent pas une balle dans le pied en menant ce genre de politique, puisque j'ai vu qu'il y a quelques mois, ils ont été obligés eux aussi d'emprunter. Pourtant, Dieu sait qu'ils ont des réserves financières importantes, mais il a fallu qu'ils passent eux aussi par l'emprunt.
Oui, je pense que si vous le permettez, juste un petit retour sur l'Algérie, je vais aussi sur l'Arabie Saoudite, mais très rapide.
Voilà, pour qu'on puisse bien avancer.
J'ai entendu qu'il y avait des militaires vertueux qui vont être corrompus par le pétrole. Je voudrais juste encourager mon collègue vraiment à aller lire les travaux de l'historien Mohamed Harbi, et il découvrira, s'il ne les a pas lus, que vraiment la vertu à ce moment-là devait vraiment être cachée pour pas être vue. Et là, on parlait des années 50-60. Donc je crois qu'il y a une lecture un petit peu avec le pétrole et la nature des régimes politiques qui est faite qui me semble beaucoup trop rapide pour vraiment résister à une analyse politique des régimes contemporains. Je bascule aussitôt sur, disons, l'Arabie Saoudite. Je crois que ce qui est en jeu, me semble-t-il, dans la volonté des Saoudiens de maintenir un prix bas, c'est tout simplement ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, la grande menace peut-être pour eux, c'est bien évidemment le gaz de schiste, et leur souhait ou leur souci, disons, c'est de parvenir à faire en sorte que sans doute, mais je ne suis pas le mieux placé pour parler des marchés pétroliers, sans doute de faire en sorte que le prix du pétrole reste toujours extrêmement compétitif pour ne pas permettre la naissance d'une, peut-être d'une industrie susceptible de rivaliser, voire de remplacer à terme ce produit.
On parle beaucoup de la compétition qu'il y a aujourd'hui, compétition géopolitique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran qui attend incessamment sous peu la levée des sanctions économiques et donc de faire son grand retour sur le marché des exportations de pétrole. Est-ce que c'est aussi ce qui peut expliquer la stratégie saoudienne aujourd'hui, Luis Martinez?
Je pense qu'il y a à la fois une volonté de faire en sorte que sans doute l'Iran ne bénéficie pas dès son retour sur le marché, je dirais, à la fois pétrolier, mais surtout diplomatique et bien évidemment militaire, au regard de sa politique dans la région, ne bénéficie pas sans doute d'un dollar à 100 ou 130, disons, d'un baril à 100 ou 130 dollars qui permettrait à ce pays très très rapidement d'assurer, disons, dans la région un rôle de gendarme. Donc on peut à la fois, disons, considérer qu'il y a sur le plan sectoriel une tentative de maintenir un prix bas pour éviter une alternative, et sur le plan régional, eh bien, empêcher l'Iran, sans doute au moins à court et moyen terme, de pouvoir disposer de ressources financières dont on voit bien l'usage qui est fait en Syrie, au Liban et ailleurs, qui pourrait être pour la politique saoudienne, disons, extrêmement, disons, dommageable.
Quand on regarde un petit peu ce paysage des puissances pétrolières, Marc-Antoine Perros de Monclos, on a l'impression que chacun joue un peu sa propre partition, y compris au sein d'une organisation comme l'OPEP, qui certes a peut-être un petit peu moins de pouvoir qu'elle pouvait en avoir auparavant, mais enfin qui pèse encore un peu plus, je crois, de 40% des exportations de pétrole dans le monde. C'est quand même assez conséquent. Mais même au sein de cette organisation, j'ai l'impression que chacun, c'est un peu le règne du chacun pour soi.
Ça, c'est pas nouveau. C'est un cartel, vous venez de le dire, donc qui déjà fait moins de la moitié des exportations, qui comprend pas d'énormes producteurs comme la Russie ou les États-Unis. Donc c'est un cartel qui a eu une influence majeure au moment du premier choc pétrolier de 73, mais à l'époque la situation était assez différente. Mais très vite, on a vu des tensions justement entre des pays comme le Nigeria, qui sont aujourd'hui à 180 millions d'habitants, ça fait beaucoup de bouches à nourrir ça, et puis des pays producteurs, je sais pas, qui sont à 3, 4 millions d'habitants, on parlait de l'Équateur tout à l'heure, le Congo-Brazzaville. C'est pas du tout les mêmes enjeux pour ce pays que de maintenir et d'obtenir un quota relativement important pour assurer leur budget d'État.
Les quotas ne sont pas déterminés en fonction de la population de chaque pays.
Alors, il y a tout un jeu de négociations diplomatiques. Il n'y a pas une clé avec à chaque fois des éléments de pondération qui garantirait à tel ou tel État de produire en fonction de sa population. Ça peut être un élément de discussion. Mais à chaque fois, il y a quand même bien aussi des rapports de force. Mais encore une fois, il est arrivé aussi, et c'est le cas du Nigeria, que ces pays n'arrivaient même pas déjà à remplir leur quota avant même que le prix du baril s'effondre.
Philippe Chalmin.
Oui, il faut se rappeler que l'OPEP n'a vraiment contrôlé le marché du pétrole que pendant 12 ans, entre 73 et 85. Et qu'à la limite, la prise de pouvoir par l'OPEP s'est faite un peu par hasard, puisque ça a été la conséquence du conflit avec Israël, la conséquence de l'embargo. Ils ont découvert, sans s'en rendre compte, qu'en 73, eh bien, ils avaient les clés du marché. À ce moment-là, ils ont pu imposer leur prix au marché. Il n'y avait pas de marché, d'ailleurs. C'était l'OPEP qui décidait de ce qu'allait être le prix du pétrole. Alors évidemment, quand vous mettez en place un prix, et ce prix a été élevé, c'était 13 dollars le baril, premier choc pétrolier. Ensuite, il y a l'affaire de l'Iran, on monte à 40 dollars le baril. À ce moment-là, ça a rentabilisé de nouveaux producteurs. C'est à ce moment-là que la mer du Nord, par exemple, voit sa production se développer, etc. En 85, voyant leur part de marché diminuer, ils se sont dit « bon, on peut plus ». Il faut que nous récupérions des parts de marché, donc nous abandonnons notre stratégie de contrôle du prix. Depuis 85, l'OPEP joue bien entendu un rôle en essayant de réguler une partie de l'offre, mais ils n'ont aucun contrôle sur le prix. Et donc, on a vu les fluctuations que vous savez. À la fin du XXe siècle, on était à 10 dollars le baril. On est monté à 147 dollars le baril le 10 juillet 2008. Et puis, on a eu une période quand même d'une assez grande stabilité qui correspond grossièrement à 2011-2014, où le pétrole est quasiment stable entre 100 et 110 dollars le baril. Et à ce moment-là, ça a été possible parce qu'il y avait un pays qui était garant un petit peu de cette stabilité, parce qu'au fond, ils acceptaient de jouer l'ajustement et l'ajustement de dernier recours, c'était l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que au fil du temps, l'Arabie Saoudite a perdu des parts de marché, et là-dessus sont venus se greffer les tensions avec l'Iran, les tensions avec la Russie. N'oubliez pas que le contre-choc de l'année dernière intervient en pleine période de crise sur la Crimée. Je n'imagine pas que l'Arabie Saoudite ait pu modifier et changer de casquette, changer de pied sur le marché du pétrole sans avoir au minimum la bénédiction de la Maison-Blanche. Et ça a arrangé, je pense, la Maison-Blanche d'avoir ainsi et de fragiliser la Russie. Car au-delà de l'Iran, l'autre grand pays fragilisé, c'est la Russie, il ne faut pas l'oublier.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la Russie, en plus, qui est soumise à des sanctions économiques, en plus de la...
Et qui soumet les autres à des sanctions économiques, nous ne pouvons plus leur vendre ni nos pommes, ni notre porc.
Marc-Antoine Perros de Monclos.
Dans l'OPEP, on vient de le dire, finalement, les seuls qui aient une vraie variable d'ajustement, c'est les Saoudiens. Les autres ne l'ont pas, cette variable d'ajustement. Donc, parce que les autres sont beaucoup plus tributaires, ils n'ont pas les réserves. Bon, c'est pas que les Saoudiens soient particulièrement sur un tempérament de fourmi, mais en tout cas, ils ont effectivement les réserves financières qui leur permettent de jouer ce jeu que n'ont pas du tout des pays comme le Nigeria, qui sont beaucoup plus vulnérables, sans même parler du Venezuela, hein, qui était pourtant aussi un des architectes de la fabrication de la constitution de l'OPEP, hein, qui a anticipé le premier choc pétrolier de 73, mais qui aujourd'hui n'a aucune variable.
Non, alors là,
il n'y a plus rien.
Bah, ils ont même vendu l'or de la Banque centrale.
Enfin, on a l'impression que c'est le Congo-Brazzaville des années 80, hein, qui vend sa production dans 25 ans déjà.
Hein. Luis Martinez, de la même manière qu'on parle ce soir, alors en débattant hein, autour de cette notion de malédiction du pétrole, est-ce qu'on pourrait presque parler d'une malédiction de l'OPEP ? C'est-à-dire que finalement, c'est une structure qui bride et peut-être empêche un certain nombre de pays de développer leur industrie pétrolière comme elles le souhaiteraient. Ou bien est-ce que ça reste encore quand même une organisation protectrice pour ses membres ?
Bah, je pense qu'on peut y retrouver un petit peu tous les éléments, mais ce qui me semble important à souligner à l'intérieur de l'OPEP, c'est qu'il y a quand même eu, disons, au moins pendant une vingtaine d'années, un clivage très fort entre les pays dits nationalistes qui constituaient le front du refus avec l'Algérie, l'Irak, la Libye, et avec une politique, disons, fondée sur ce qu'ils appelaient la diplomatie pétrolière, donc essayer d'utiliser le pétrole comme une arme diplomatique, et puis on avait à côté les Saoudiens et leurs alliés qui, au contraire, s'efforçaient, disons, de réduire la puissance de ces États. Moi, ce qui me semble intéressant de montrer, c'est que au cours de l'histoire, disons, récente de l'OPEP, finalement, l'Arabie Saoudite sort elle est vainqueur de ce conflit. L'Irak a disparu de la carte, tant militaire que diplomatique que pétrolier. La Libye, eh bien, est en train de sombrer. Et dans ce front du refus, on a encore une Algérie, mais dont on voit bien qu'elle fait très peu parler d'elle, sans doute parce que ses ressources sont aujourd'hui extrêmement limitées. On a donc une Arabie Saoudite quasiment au moins dans la sphère, disons, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, hégémonique. Ensuite, qu'au niveau mondial, elle soit bien évidemment en situation bien inférieure à des pays comme la Russie, bien évidemment. Mais je crois que, au moins dans sa dimension régionale, l'Arabie Saoudite a littéralement, écrasé tout ce qui avait contesté tout au long de ces années, à la fois son leadership, son idéologie, et bien évidemment sa capacité à remodeler, disons, un certain nombre d'alliances régionales. Quand on voit aujourd'hui, les conséquences du développement du wahhabisme à travers le salafisme, le jihadisme, autant d'États qui se sont effondrés sous les coups de boutoir de ces organisations, on a du point de vue saoudien sans doute une lecture extrêmement, fondée sur une success story. On a véritablement réussi à éliminer à l'intérieur de cette région-là tous les pays qui pouvaient constituer une opposition, voire une alternative.
Alors vous avez évoqué les uns et les autres, me semble-t-il, depuis le début de l'émission, l'exception que pourrait constituer la Norvège par rapport à ces grands pays producteurs et exportateurs de pétrole. Je voudrais vous faire écouter juste un extrait d'un reportage qui était passé sur France 2, c'était en juin dernier, et c'était un reportage consacré à la façon dont ce pays est en train de préparer son après-pétrole.
Sur les trois premiers mois de l'année, le fonds norvégien a enregistré un rendement record, plus 5%. Cette énorme cagnotte servira à financer les retraites des générations futures qui n'ont pas beaucoup de soucis à se faire.
Parce que le choix du gouvernement, c'est la prudence, la préparation du futur, de l'après-pétrole. Grâce à l'argent de son pétrole, en 40 ans, le royaume a amassé un tas d'or. Montant de sa fortune, 820 milliards d'euros.
Je pense que c'est bien qu'on n'utilise pas tout de suite la richesse de la Norvège. Il faut qu'on pense aux prochaines générations, leur laisser de quoi tenir.
C'est plus sage d'économiser, parce qu'on ne sait pas combien de temps cet âge d'or va durer.
C'est bien de penser au futur, parce qu'on vieillit, et je suis content de savoir que je pourrai être pris en charge plus tard.
Allez, extrait de ce reportage diffusé sur France 2 en juin dernier. Vous me disiez pendant la diffusion de cet extrait, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qu'il ne faut pas oublier que la Norvège est un petit pays, enfin, du point de vue de sa population.
4 millions d'habitants. Donc on peut, y a peut-être effectivement de la marge de manœuvre, quoi qu'il en soit du développement de l'État norvégien. Il y a une marge de manœuvre pour, placer l'argent de la rente pétrolière. Quand vous êtes un pays à 180 millions d'habitants, le ratio du nombre de barils par habitant n'est pas le même. Donc vous êtes beaucoup plus dépendant de votre, je sais pas comment vous l'appeliez, cocaïne ou de votre dopage du cycliste qui veut.
Sans dupliquer ce modèle, est-ce qu'en tout cas, ça peut servir justement de modèle pour d'autres pays qui peuvent essayer justement de sortir de cette emprise pétrolière. Moi, j'étais assez surpris en rendant une fois en Norvège de constater par exemple que le prix de l'essence quand on est automobiliste est élevé pour un pays où enfin, a priori on pourrait imaginer que c'est
tout est cher en Norvège.
Tout est cher, mais l'essence en particulier et l'alcool.
Oui, et l'alcool encore plus. Voilà. Non, écoutez, moi ce qui et je crois que c'est aussi important de le retenir dans ce débat, c'est quand même très difficile de généraliser. Est-ce qu'il y a un modèle qui s'applique aux pays en développement qui produisent et qui exportent du pétrole? Parce que certains produisent et n'exportent pas. Bon, bref. Donc, voilà. C'est un peu difficile de généraliser. Ça dépend du nombre d'habitants. Ça dépend de la nature des régimes politiques en place. Ça dépend des institutions, de la qualité des institutions. Est-ce qu'effectivement, il y a une croissance inclusive qui fait de la redistribution, oui ou non? Est-ce qu'il y a cette volonté politique? Donc, à chaque fois, on retourne quand même sur la question de l'État. C'est-à-dire que le fait que le pétrole soit une malédiction dépend aussi beaucoup de la façon dont l'État est organisé et la façon dont il est géré et gouverné.
Ça va peut-être aussi dépendre de la façon dont l'État prenne des engagements par rapport peut-être à une baisse de production pétrolière. On est en pleine négociation de la COP21. Philippe Chalmin, est-ce que finalement régulation dont on voit bien aujourd'hui qu'elle n'existe pas, que chacun est un petit peu dans son coin, cette régulation elle ne va pas venir par la contrainte qui pourrait sortir d'un accord à la COP21
non.
En disant, bah voilà, tel pays va devoir réduire ses émissions de CO2, donc il va bien falloir qu'ils réduisent leur production.
Non, parce que, soyons honnêtes, si nous arrivons grâce à la COP21 à réduire nos utilisations de charbon, ce sera probablement quand même la conséquence la plus importante. Le pétrole reste, sur un certain nombre de fonctions, notamment la fonction transport, totalement incontournable. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Pérouse de Monclos. Finalement, on sait bien à peu près ce qu'il faut faire. Si vous avez la malchance d'être producteur de pétrole, il faut que la rente de votre pétrole, vous l'isoliez totalement de votre budget, que vous la mettiez dans une caisse à part, et que vous continuiez à vivre comme s'il n'y avait pas de pétrole. C'est ce que font les Norvégiens. Il y a deux autres pays, pour d'autres matières premières, qui ont fait ça de manière relativement bien. C'est le Chili, de l'époque Pinochet et post-Pinochet, qui a très bien géré la rente du cuivre, et dans un côté un peu plus anecdotique, c'est le Botswana.
Un million d'habitants.
Voilà, pour le diamant. Par contre, j'ai une petite histoire que je peux vous raconter qui concerne le Tchad. Le Tchad a du pétrole, mais si vous regardez la carte, le Tchad, il est au milieu de l'Afrique, et donc, c'était l'époque où le pétrole, ça valait une vingtaine de dollars le baril, et le Tchad, il avait besoin de construire un oléoduc pour sortir son pétrole. Il n'y avait personne qui voulait prêter au Tchad. Finalement, la Banque mondiale s'y est mise. Et la Banque mondiale a dit, attention, puisque nous allons vous prêter de l'argent, nous allons mettre des conditions. Et donc, vous allez vous engager à ce que la rente du pétrole, vous ne la dépensiez que pour des dépenses utiles à la population. Et puis, il y en a une partie que vous allez mettre de côté dans une banque et dans un compte bancaire, dans une banque à Londres ou aux États-Unis, je ne me souviens plus. Les Tchadiens, vous savez, ils n'avaient pas d'autre choix, ils ont signé, et dès demain. Le problème, c'est que quelques temps plus tard, le pétrole est monté au-dessus de 100 dollars le baril. Les Tchadiens ont remboursé très rapidement leur emprunt. À ce moment-là, ils ont fait un grand bras d'honneur aux Occidentaux, et d'une part, ils ont acheté du matériel militaire dont ils avaient besoin pour lutter contre les guérillas avec l'argent du pétrole, et ensuite, on a eu un grand discours nationaliste nous disant « c'est du néocolonialisme, il faut rapatrier au Tchad l'argent qui se trouve dans des banques à l'extérieur et qui était normalement consacré aux générations futures ». Le résultat, le Tchad a gaspillé totalement sa rente pétrolière et le développement économique tchadien ne se fait pas malheureusement avec le pétrole.
Luis Martinez.
Oui, moi j'ai trouvé excellent votre exemple de la Norvège, simplement parce que j'y avais été à un moment donné consultant auprès de Statoil, donc j'avais un petit peu vu comment fonctionnait cette entreprise. Et si vous le comparez à la Libye, et pas au Nigeria par exemple, un pays de 5 millions d'habitants comme en Norvège, le fait majeur c'est que c'est pas le problème, le problème c'est pas le pétrole, c'est bien évidemment les institutions et l'État qui exercent ou pas un contrôle sur ce pétrole. Je vous donne un exemple concret, entre 1970 et 2000, la Libye vend pour à peu près 300 milliards de dollars de pétrole. Son PIB en 2000, il est inférieur à celui de la Tunisie. Il est de 30 milliards de dollars. À la même période, celui de la Norvège se retrouve de 250 milliards de dollars avec une vente d'hydrocarbures comparable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un premier cas, on a eu une compagnie pétrolière qui a été soumise à des institutions, à un parlement, à une société civile, aux médias. Et dans l'autre cas, celui de la Libye, on a eu des revenus pétroliers qui ont été, entre guillemets, utilisés par une famille dont on a vu après les révoltes arabes, bien que l'argent avait été dispatché dans différents pays. Donc très clairement, l'enjeu, c'est véritablement pour le pétrole, afin qu'il ne soit pas une malédiction, c'est qu'il y ait des institutions politiques capable d'exercer un véritable contrôle sur les compagnies pétrolières et notamment les revenus et sa redistribution.
Juste d'un mot, Luis Martinez, institutions politiques qui pourraient être des institutions transnationales ou sont les institutions nationales dont vous parlez ?
Je parle d'institutions nationales. Transnationales, ça signifierait, et on l'a vu dans le cadre de l'Irak avec les Nations Unies, elles ne sont pas toujours à la hauteur des attentes que l'on peut avoir.
Oui, mais le drame est que l'argent du pétrole corrompt les institutions politiques, même parfois les plus vertueuses.
Pour l'instant, la Norvège semble y échapper.
Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion consacrée à la malédiction du pétrole. On aurait pu évoquer une autre organisation qui fait évidemment beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est l'État islamique. Malédiction du pétrole, État islamique, évidemment, il y a rien qu'on pourrait faire. On ne l'a pas fait à dessein parce qu'il y a eu une émission consacrée à ce sujet précisément il y a quelques jours de cela dans les Matins de France Culture présentée par Guillaume Herner. Merci en tout cas Philippe Chalmin, Marc-Antoine Pérouse de Monclos et Luis Martinez, ainsi qu'à nos confrères de France Bleu à Nantes qui vous accueillez ce soir. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Alexandre Dang. Demain, à la veille des municipales en Arabie Saoudite, mais ce ne sera pas le seul exemple que nous prendrons, nous nous demanderons pourquoi les femmes doivent-elles toujours se battre pour leurs droits, puisque il se trouve que lors des municipales en Arabie Saoudite, les femmes seront pour la première fois candidates. En tout cas, elles ont eu cette possibilité-là.